Donc, je voudrais tout de suite, au début, qu'on reprenne ce beau chant à l'Esprit-Saint, parce que je vais avoir besoin de lui. Donc, si vous pouvez le reprendre.
Esprit de sainteté,
le témoignage se situe entre mars 1985, date de mon arrivée, et janvier 1990, date de mon départ. Les faits que je vais rapporter se situent donc dans cette période, période où le père a connu d'une part la maladie et d'autre part, c'est la période où, je crois, le père a été beaucoup méconnu, incompris, critiqué, ou circulait jusqu'à la calomnie. Je l'ai vécu, donc ce sont des faits que je rapporterai. J'ai connu le père Marie-Joseph d'une toute autre manière que vous. Je n'avais jamais entendu parler de lui quand je suis arrivée à Bitche. Et avec mes sœurs, nous avions comme charge l'intendance de la maison Saint-Conrad, avec le père Daniel qui était directeur à l'époque. Si notre travail était caché et en coulisses, nous savions bien qu'il contribuait tout autant au bien des âmes. Je me souviens d'une réflexion du père Schönborn, oui, à l'époque il n'était pas encore ni évêque ni cardinal, passant à la cuisine pour remercier la cuisinière et disant à sœur Jeanne, « Savez-vous quels sont les deux personnages les plus importants de cette maison ?» Et sœur Jeanne, bien sûr, rougissant, s'entend dire « C'est l'Esprit-Saint et la cuisinière. » Cela vous situe un petit peu la place des sœurs dans la maison Saint-Conrad à l'époque. Mon témoignage consistera surtout à vous donner des faits pris sur le vif, que je laisserai, j'allais presque dire, à l'état brut. Parce que quand quelqu'un est mort, on a tendance à en rajouter et à enjoliver. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je tâcherai d'être le plus près de ce que j'ai vécu et je ne rapporterai que le fait, sans même y mettre quelque chose de moi. À part l'un ou l'autre point, mais je le nommerai. Alors, par contre, il y aura beaucoup de manques, beaucoup de trous, mais ça, c'est ma mémoire qui commence un petit peu aussi à partir. Donc, mon arrivée à Bitche, j'arrive au cours d'une retraite qui était prêchée par le père Pirot. Sœur Bernadette, ma provinciale, mes sœurs, que je ne connaissais pas ou à peine, sœur Saint-Jean, que je remplaçais, sœur Marie-Berthe, sœur Marie-Victor, je pense que pour certaines, tous ces noms-là vous disent quelque chose. Sœur Maria Goretti était là pour m'accueillir. Après un long temps en communauté, les premiers jours ont surtout consisté à faire connaissance avec les pères capucins, parce qu'à l'époque, ils étaient très nombreux au couvent. Donc, le gardien, Monseigneur Mesmer, Père Richard, Père Léonissa, Père Laurent, Père Dieudonné, Frère Antoine, Frère Charles, Père Georges, j'en oublie certainement. Comme j'avais repéré, donc j'ai été les voir, chacun dans leur cellule, de manière à bien faire connaissance et à ce qu'on puisse me présenter comme la nouvelle arrivée. Comme j'avais repéré dans le hall d'entrée une porte à droite, près de la statue, avec l'inscription « Père Marie-Joseph », Je me suis demandé s'il y avait quelqu'un derrière cette porte-là. Et donc je demande à mes sœurs, mais au fait, dans le hall d'entrée, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière la porte? C'est marqué Père Marie-Joseph. Ah oui, c'était le quatrième jour. Il faudrait peut-être qu'on te présente. On prend le chemin du long couloir à l'heure de la cuisine jusqu'au bureau du père et sœur Bernadette, sœur Marie-Berthe me disent tu verras il est un petit peu original, en fait tu verras quoi, il est un peu original. Et là, je peux dire que j'ai vraiment oublié. On est entré donc dans le père dans le bureau du père, et je ne me souviens plus de ce qui a été dit ou pas dit. Mais j'ai été entièrement saisie. J'ai encore tout mon être qui reste ému quand j'en parle ou quand j'y repense. C'est comme si, en une seconde, j'avais été pénétrée du mystère du Père, et comme si j'avais tout compris qui il était. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, je ne sais pas. Et il vaut mieux que je n'en dise pas plus. Mais pour moi, c'est resté très mystérieux. Je l'ai accueilli comme une grâce, et une grâce qui, dans la suite, m'a permis d'aller à contre-courant de certaines habitudes qui se vivaient pour que, justement, ce soit le bien de tous. Très vite, le Père m'a fait connaître les uns et les autres. Le Père était déjà fier, je le dis parce que c'est vrai, il était déjà fier de me présenter. La toute première que j'ai connue, Élise. Je pense que beaucoup parmi vous se rappellent d'Élise. Et Élise, je retiens surtout sa profonde humilité et son apostolat. C'était une vraie fille du Père. Puis, vous voyez, c'était les années de Philo, Madame Arisa, enfin, voilà. Je me souviens, surtout dans les premiers temps... Ah oui, je me souviens, ça j'aime trop. C'était à la chapelle, on était à la messe, et de la chapelle de la maison Saint-Comte. Et alors, il y avait un petit qui s'appelait Bernard. Et Bernard, évidemment, il était tout petit. Et je crois que sa maman s'appelait Chantal. Et lui, son grand plaisir, c'était vraiment les dessins au plafond. Et il passait sa messe En scrutant le plafond, je ne sais pas trop ce qui pouvait bien se passer dans sa tête. Ce sont des petites choses comme ça, des petits souvenirs qui me sont restés vraiment très, très vite dans ma mémoire. Alors, après, le Père aussi, parmi les premiers qu'il m'a présentés, ça a été Léon et Paulette. Et je dois dire que ça a été une grande grâce ce matin pour moi, parce que je suis passée dire bonjour à Paulette, en sachant que Léon, lui, est hospitalisé. Alors après, je vais vous parler beaucoup de la soupe du Père Marie-Joseph. Voilà, je ne peux pas dire autrement, mais c'est comme ça. Sœur Rézel et Élise, en son absence, s'occupaient des affaires du Père jusqu'au jour, mais je ne sais plus trop ni à quel moment ni pourquoi, j'ai pris le relais. Et alors, il y avait la fameuse soupe de 10 heures. Et le Père l'aimait particulièrement parce que Sœur Jeanne la faisait très bien. Et pour moi, cette soupe a été providentielle parce qu'elle me permettait de rentrer dans le bureau du Père et j'y voyais beaucoup de choses. Des choses que vous n'avez pas vues et que j'étais seule à pouvoir enregistrer et à pouvoir voir. Un jour, je frappe à sa porte. Pas de réponse. Je refrappe à sa porte. Pas de réponse. Inquiète, je me dis, je vais voir. J'ouvre. Le Père était à gauche, dans le coin, devant la statue de Notre-Dame de Fatima. Il avait sa main sur son manteau et il la regardait. Fermé tout doucement, j'ai attendu. J'ai, au bout d'un bon moment, recommencé. Pas de réponse. J'ai rouvert. Toujours même position. Je suis partie réchauffer ma soupe parce que je me suis dit, elle va être froide. Et je suis revenue. Le Père était dans son fauteuil, comme si de rien n'était. Pour lui, c'était ni vu ni connu. Mais j'avais vu. Et le Père avait quelques gestes d'affection et de tendresse qui étaient étonnants de sa part, parce que ce n'était pas un sentimental. Et je peux vous donner un autre fait aussi qui me frappait beaucoup. Un jour, dans son fauteuil, il me dit « Sœur Thérèse, quand ça ne va plus », et il prend la petite statue, il avait deux statues de Saint-Joseph, je ne sais pas si les anciens, vous voyez, il y avait la plus grande, qu'on croit en bois mais qui est en plâtre, et il y avait la toute petite. Et il prend la toute petite dans sa main et il la serre, il la repose et il me dit « Voilà, ça va mieux ». Donc étonnant, ces petits gestes d'affection de la part du Père. mais je les ai connus grâce à ma soupe. Donc, voyez l'importance que ça peut avoir. Ce petit Saint-Joseph, je tiens un tout petit peu à lui donner de l'importance parce que, pour moi, il a été vraiment c'est une grâce. Je l'avais donc toujours dans ma chambre jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Et j'en ai tellement retiré de grâce que je me suis dit, je ne peux pas les garder toutes pour moi. Donc ce petit Saint-Joseph est en train de circuler. Il a été déposé, parmi vous, il y en a une qui l'a, peut-être dans le secret, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Mais toujours est-il que je pense que la Providence se chargera d'indiquer ce que cette petite statue doit faire. Mais ce qui est sûr, c'est quand je mourrai, le petit Saint-Joseph reviendra à la fraternité. Alors, autre chose. Ah oui, là on arrive à un petit passage un petit peu plus douloureux, mais voilà, c'est de l'histoire. Je n'en rajoute pas et je n'en retranche pas. Donc, je ne m'étendrai pas plus qu'il me faut. Du reste, l'un ou l'autre exemple suffiront à vous montrer à quel point le père Marie-Joseph était peu compris, mal vu et même calomnié. Je faisais partie à l'époque du bureau des services communautaires. Le père cuisinier, délégué à la vie religieuse, je ne sais pas s'il vit encore, délégué à la vie religieuse dans le diocèse, s'occupait également des services communautaires. Un jour, dans une réunion de bureau où je participais, à Saint-Jean-de-Basselle, on vient à parler, je ne sais plus pourquoi ni comment, du père Marie-Joseph. Et le père cuisinier, autant que les sœurs, se met à rire. Alors même un tout petit peu plus loin. Je suis restée sérieuse, je n'avais aucune raison de rire. À la sortie, après la réunion, je dis « Mais père, vous connaissiez le père Marie-Joseph ?»« Non, pas du tout. Non, enfin, tu vois, excuse-moi, mais tu vois, je ne le connais pas. » Mais je dis « Père, je ne comprends pas bien. Vous êtes délégué à la vie religieuse. Vous venez pour toutes les réunions de secteur à la maison Saint-Conrad. Vous passez devant le bureau du père. » Et vous n'avez jamais été salué. Ben, il dit non, mais tu comprends, il est spécial, il est surtout très dur, tu sais. Je dis, mais père, lui dire bonjour, le saluer. Et il me répond, il ne m'acceptera pas. Ça c'est clair, tu sais, non, je crois que ce n'est pas la peine. Je dis, père, et si on essayait? Bon, ben il me dit, tu m'introduiras. Donc, il vient à une réunion de secteur. Et après la réunion de secteur, et moi, en rentrant, je passais toujours au bureau du père, et puis je lui donnais un petit compte-rendu. Et je lui dis, Père Marie-Joseph, c'est possible que le père cuisinier vienne vous saluer. Sœur Thérèse, mais il viendra jamais. Et je dis, père, et s'il venait? Et donc, finalement, la réunion de secteur a lieu, et après la réunion de secteur, le père cuisinier me dit, tu m'introduis chez le père Marie-Joseph? Donc, je descends. Puis j'introduis et je disparais. Je remonte donc à la communauté, nous étions au premier, et bien une bonne demi-heure, trois quarts d'heure après, coup de sonnette à la porte, je descends, le père cuisinier, visiblement très ému, et me dit « Je ne peux pas repartir, Thérèse, sans te remercier. Je viens de faire une belle rencontre. Je sais maintenant qui est le père Marie-Joseph. » Je peux vous dire que le père cuisinier avait les yeux rouges. Et il a ajouté, et là j'en reste encore bouleversée aussi, il a ajouté, la semaine prochaine, j'ai réunion avec les supérieurs générales de l'Est, je ferai amende honorable. Un deuxième petit fait, pris sur le vif, ça se passait donc à la maison Saint-Conrad. Il y avait les réunions bureau-vol, Beach, Rohrbach, Volmaster. C'était les prêtres qui se retrouvaient pour ces réunions-là. Et là, c'est pareil. Une fois, je servais à table et un jour, les prêtres parlaient entre eux et tout à coup, j'entends Père Marie-Joseph. J'arrive pour servir. Et là, me regardant, « Ah non, ça on ne peut pas le dire devant vous, Sœur Thérèse. » Parce que bon, tout le monde savait un petit peu que j'aimais beaucoup le Père Marie-Joseph et que quand il fallait, je savais le défendre. Ça a été même un petit peu plus loin parce que à force d'entendre toutes sortes de choses sur le Père Marie-Joseph, j'ai été convoquée par Monseigneur Raffin, qui m'a dit, puisque Sœur Thérèse, vous êtes dans la maison Saint-Conrad, puisque vous voyez, puisque vous entendez, etc., j'aimerais un petit peu savoir quelques précisions, ce que vous pensez du Père Marie-Joseph. Inutile de vous dire que ma réponse, elle a été celle d'une petite sœur qui débarquait et qui découvrait vraiment un Père Marie-Joseph qui fait partie encore de ma vie et qui m'a aidée à grandir. Alors, voilà, ça c'était des choses un petit peu plus dures quand même. Et là maintenant, ça va être un petit peu plus une détente. Le père, alors toujours avec ma soupe, j'arrivais avec ma soupe et le père jouait l'harmonium. Mais tant et plus, hein, il y allait vraiment. Et ben ma soupe, de nouveau, fallait la réchauffer. Et il improvisait, et je ne l'ai jamais vu avec une feuille devant lui. Il improvisait. Et alors, il disait, soit que mon âme est trop pleine de joie et de bonheur, soit qu'elle est trop pleine de souffrance et de ténèbres, c'est la musique qui me permet d'exprimer ce que je ne peux pas exprimer autrement et qui est dans mon cœur. On sentait comme un réel besoin de la part du Père de pouvoir s'exprimer. Donc ça aussi, c'est grâce à ma soeur. Après, qu'est-ce que j'ai noté encore comme fait? Ah oui, je ne peux pas passer sous silence, je dirais le Père Michel et le groupe Sainte-Thérèse. Ça serait difficile de ne voir le Père, de le voir sans Michel et sans le groupe Sainte-Thérèse. Donc, je dirais même presque pauvre Michel. Je peux vous dire qu'elle en a vu toutes les couleurs et que le Père, j'étais surprise par l'exigence que le Père avait pour Michel. Elle n'était même pas rentrée du collège parce qu'à l'époque, elle travaillait au collège à Lemberg. Et elle n'était pas encore rentrée que déjà le père me disait, Sœur Thérèse, Michel, elle est... je dis père non, elle n'est pas encore rentrée. Dès qu'elle rentre, vous me l'appelez. Oui père. J'appelais Michel, alors c'était pour préparer une réunion de ceci, une réunion de cela, pour chercher quelque chose dans les archives, c'est incroyable. Et si bien qu'un jour, je me suis permise de dire au Père Marie-Joseph, mais Père, je trouve que c'est trop pour Michel. Elle dort plus, elle se lève tôt, elle va jamais tenir le coup. Et il me répond, ce sont des choses trop importantes qu'on ne peut pas laisser passer. Et Michel a besoin d'être formé. Donc, je montais le soir, un petit peu de fortifiant, un petit peu de vitamines et un petit peu de compote dans la chambre de Michel qui n'avait certainement pas le temps de manger ce soir-là. Il y a aussi donc le groupe Sainte-Thérèse. Le père Marie-Joseph affectionnait vraiment d'une manière toute particulière le groupe dans son ensemble, mais chacune en particulier. Et souvent le soir, quand je lui portais sa tisane, il me parlait de l'une ou de l'autre, me disant, voilà, pour une telle sœur Thérèse, elle connaît des difficultés en ce moment, il faut la porter dans la prière. Une telle autre nécessite d'être encouragée. Sœur Thérèse, si jamais vous passez aussi, etc. Et le Père me donnait des petites choses à réaliser auprès de l'une ou auprès de l'autre parce que c'était son souci, vraiment, que les unes et les autres, je vous dis, vous ne saurez qu'au ciel combien il vous a aimé, toute celle du groupe Sainte Thérèse qui est là. Je peux vous le dire. Et même les nouvelles, parce qu'il portait déjà les nouvelles qui ne l'ont pas connu dans son cœur. C'était aussi l'époque des AFC. Le Père m'en parlait comme la priorité pour aujourd'hui. Il aimait souligner combien les uns et les autres se dévouaient sans compter. Il me parlait d'un Jean-François Chaumont, qui était président des AFC de Moselle, d'Alphonse Meyer, Marie-Louise. Enfin bref, là, il y en avait beaucoup, et je préfère pas tout nommer, parce que j'aurais peur d'en manquer un. Ce que je ne voudrais surtout pas, parce que dans mon cœur, vous y êtes tous. Oui, la famille a vraiment été pour lui une des priorités. Il suffit de repenser à Mgr Majdanski et à l'affiliation et voir tout le temps qu'il mettait au service des uns et des autres, ne regardant à aucune fatigue. Il lui arrivait de ne pas manger le soir, et quand je m'en suis aperçue, parce que quand il traversait pour aller au couvent, ben, tout était rangé, tout était, et puis il n'y avait plus rien. Et le père revenait et il n'avait pas mangé. Donc quand je m'en suis rendu compte, ben, c'est évident que, voilà, avec Sœur Jeanne, on lui portait ce qu'il fallait, mais il fallait avoir l'œil parce que le père n'aurait jamais réclamé. À tel point qu'à un moment donné, il avait dans son bureau, vous pouvez encore aller voir, le petit tiroir qui est à droite. C'est un petit tiroir où on lui mettait des petites choses un petit peu qui pouvaient subvenir à la faim quand il n'avait pas mangé et qui pouvait se trouver une petite chose dans son tiroir. Et il aimait beaucoup. Je ne sais pas s'il l'aimait vraiment ou si c'était pour nous faire plaisir et pour nous faire remarquer que, voilà, il nous disait merci. Il y avait aussi à l'époque les fêtes de Noël à Cassin. Je pense que ça aussi, ça fait partie. Alors, ces fêtes rendaient toujours le père heureux. Il y a quelque chose de très précis que j'avais retenu. Mais ne le détournez pas de l'essentiel. Et le soir, il posait les vraies questions. Quels étaient les nouveaux venus? Qui étaient-ils? Comment les avait-on accueillis? Le message de Noël était-il bien passé? Et il mettait également en garde contre une certaine vanité. Je le trouvais quelquefois exigeant pour Madame Arisa, à l'époque c'était elle plus toute son équipe, parce qu'elle s'était donné tant de peine et le père, lui, il avait ses exigences. Il ne laissait pas passer beaucoup de choses. Oui, un autre point aussi qui me frappait, c'était la liturgie. Le père était très proche de la liturgie. Pour lui, une rubrique, c'était important. Tout était important. Et il avait aussi une manière, chaque fois que l'ordo le permettait, de choisir des messes votives qui permettaient de découvrir aussi ce qui l'habitait en profondeur. Oui, là, un petit exemple, alors là, si vous me permettez, plus personnel, mais ça montre bien l'humilité du père. Dans les débuts, je me suis dit, bon, il faut quand même qu'un jour je me confesse, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pères, et puis je demande au père. Il me regarde et me dit, oh, Sœur Thérèse, il dit, il y a tellement de pères au couvent, vous allez trouver mieux que moi. Je dis, vraiment, je ne m'attendais pas à cette réponse. Et quelque part, je me dis, bon. 8 jours après, je retourne et je lui dis, père, alors il me dit, mais vous n'avez pas cherché, je dis non, père, parce que c'est vous. Et voyez son humilité, vous allez trouver, il y en a mieux que moi au couvent. C'est vrai qu'ils étaient nombreux, et peut-être, mais moi, c'était lui que je voulais. Voilà, donc ça a pu se faire. Un autre point, la lecture des journaux. Le père Marie-Joseph était, alors, extraordinairement fidèle à la lecture des journaux. Il n'en avait pas qu'un, mais il lisait tous les jours, il profitait des petits instants qui lui étaient laissés parmi toutes les visites de la journée. Il lisait La Croix, Le Républicain Lorrain, Les Nouvelles d'Alsace, et il disait « Je dois être informé et je dois savoir ce qui rentre dans les presbytères et dans les communautés religieuses sans esprit critique et sans discernement, et sentir où est le maillon faible vis-à-vis de l'Église. Je dois être informé. » Il appuyait sur le « je dois être informé ». Il lisait également régulièrement la documentation catholique et l'Osservatore Romano. Et je le voyais souvent découper des articles de journaux. Et quand il y avait des récollections pour les JF, le groupe Sainte-Thérèse, les foyers, les religieuses, il les réutilisait et il disait « c'est pour former le jugement par rapport aux événements d'aujourd'hui et surtout par rapport aux événements de l'Église ». Et à moi-même, il me disait « Sœur Thérèse, vous avez lu tel article, il faut absolument le lire ». Et il revenait à la charge pour vérifier si je l'avais bien lu. Et il ajoutait, il me commentait certains points importants, et il ajoutait, il faut en parler à vos sœurs, aujourd'hui ce sont des points importants, il faut que vos sœurs le sachent. Donc, vous sentez de nouveau, je dois, il faut, par rapport à l'actualité. Son amour pour ses frères. Le père se rendait compte qu'étant à la maison Saint-Conrad, il était gâté par rapport à ses frères au couvent, qui tous prenaient de l'âge avec des santé qui baissaient. Un jour, il me dit son désir de m'entretenir d'un sujet important qui lui tenait à cœur. Ayant réfléchi à la situation du couvent, il pensait le moment venu permettre aux pères et aux frères d'être aidés. Jamais aucune personne laïque n'avait pénétré dans le couvent. Donc, vous voyez ce que ça représente, des pères âgés qui ont réellement besoin, mais aucune personne laïque n'était jamais rentrée pour ce genre de travail. Et ça, le père, lui, il se posait des questions. Alors, sœur Marie-Berthe, elle, aidait certains pères, mais elle ne pouvait pas les aider tous parce qu'ils étaient quand même assez nombreux. Et sœur Marie-Berthe, elle-même, commençait aussi à prendre de l'âge. C'était donc une première pour le couvent, une personne laïque au couvent, mais comment l'idée allait-elle être accueillie par le gardien déjà et par les pères? Le père n'envisageait pas les choses d'une manière générale et floue, contrairement à ce qu'on pouvait en dire. Mais il avait tout réfléchi et prévu concrètement, et il me demandait mon avis en me disant « On ne peut pas faire rentrer n'importe qui au couvent. Les pères ont leurs habitudes, ils n'accepteraient pas. » J'ai pensé à Marie-Jeanne. De plus, elle est aide-soignante et saurait aider un père malade. Sœur Thérèse, vous pourriez la former, elle ferait cela très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est clair que dans la situation, l'idée a été acceptée, mais un tout petit peu quand même au début, pour surtout les anciens qui connaissent, avec un petit peu de réticence quand même. Mais finalement, les choses se sont faites et les pères ont fini par dire « Heureusement que Marie-Jeanne est là », parce qu'ils se rendaient bien compte que le père Marie-Joseph, finalement, avait trouvé la vraie solution pour le couvent. Autre exemple de son sens de l'organisation, oui, le père aimait beaucoup me parler de Montbrun aussi. Et quand il en parlait, j'étais toujours émerveillée par les précisions qu'il donnait. C'est très curieux, parce qu'on n'imaginait pas toujours combien il pouvait être aussi précis. Et alors, il m'expliquait, oui, donc pourquoi ça ici, pourquoi ça comme ça, parce qu'il fallait que tout le monde puisse être accueilli, que pendant que les uns feraient ça, les autres feraient ça. Enfin, vous voyez, c'était toujours les familles qui viendraient, les familles qui pourraient se ressourcer, les familles qui pourraient avoir un temps aussi. Voilà, ça c'était toujours une pensée qui habitait profondément le père. Son amour des fleurs, le père aimait beaucoup les fleurs. Mais vraiment, un petit peu étonnamment aussi, pour quand on le voit aussi, mais quand même curieux. Et il les aimait tellement que quand dans son bureau elle commençait à être fanée, on avait envie de prendre le bouquet et puis de le changer ou de le remplacer. Mais non, parce qu'il y avait encore dedans une fleur qui était belle. Donc lui-même préférait couper les queues, le petit bout, pour qu'elle dure plus longtemps. Et il allait souvent aussi admirer les fleurs dans le jardin de sœur Marie-Berthe. Et souvent, il prenait la comparaison des fleurs aussi pour expliquer des idées beaucoup plus belles et pour dire, voilà, le bon Dieu, lui, il n'est pas unique. Il a créé une multitude et il partait, voilà. Et il disait aussi, c'est une manière de prier comme Jésus le demande continuellement. Alors, oui, il y a sa maladie, mais ça, j'ai peut-être le placer après. Oui, il y a eu donc aussi, alors, j'ai eu la grande grâce de participer à un pèlerinage à Rome et à Assise avec le Père, un pèlerinage où lui-même avait pensé ne plus pouvoir y retourner, puisqu'il venait après sa première maladie. Alors, vous voyez le Père à pèlerinage, lui, à Rome, à Assise, tout son être vibrait et je crois qu'il oubliait complètement qu'il avait été malade. Seulement comme j'y étais comme infirmière, j'étais un tout petit peu obligée de surveiller et je me promenais avec le thermos pour qu'il puisse quand même boire suffisamment et avec le parapluie servant d'ombrelle quand il y avait trop de soleil parce que pour lui, il oubliait tout. Donc ça a été aussi des moments très beaux et très forts. Ça a été des moments finalement de l'affiliation. Ça a été le moment aussi où il a rencontré le père Zoudaïr, qui était quand même, c'était la Cité internationale du Tiers-Ordre, et ça a été un moment très important pour le père et pour la fraternité. Et je me souviens aussi de la joie profonde du père à Assise, qu'il pensait ne plus revoir. Ah oui, encore un aspect qui m'a beaucoup frappée. C'est étonnant de voir combien de personnes passaient dans le bureau du père et combien, j'allais dire, de toutes conditions, de tout genre, de vraiment venant de partout. Ça m'a beaucoup, beaucoup surpris parce que moi-même, dans ma vie, j'en avais jamais vu autant. Et je vais en nommer quelques-uns simplement pour un tout petit peu situer. C'est en désordre, hein. Mais je me souviens très bien qu'il avait, ça c'est très beau, il avait une affection, surtout pour ceux qui étaient plus loin et qui ne revenaient pas souvent. Vous aviez Roger Lehmann, René Lejeune, il y avait Didier Rance aussi à l'époque. C'en était qu'il revenait moins souvent à la fraternité, mais le père aimait m'en reparler le soir, parce que j'avais un petit peu les retombées de la journée le soir. Alors oui, là je vais parler donc de sa maladie. Donc il y a eu son premier accro en 87. Marie-France est là? Elle n'est pas là. C'est le docteur Garel et Marie-France qui étaient là. Et je dirais grâce à eux deux, parce que ça a été quand même un moment assez fort et assez difficile. Et le docteur Garel a été formel. Il ne voulait pas que le père Marie-Joseph retourne au couvent. Il fallait l'hospitaliser au plus vite et l'hospitaliser, le coucher à la maison Saint-Conrad. Donc on l'a mis dans la chambre qui servait de chambre des prédicateurs, tout de suite là au rez-de-chaussée. Et je dois dire que je dois beaucoup à Marie-France, parce que je n'étais qu'infirmière, et Marie-France et le docteur Garel ont fait le lien et nous ont permis à ce moment-là de soigner le père, j'allais dire, à la maison Saint-Conrad. Ce que j'avais remarqué là, j'étais encore quand même, c'était dans mes premières années connaissant le père, c'était sa capacité d'être enfant. Autant le père savait ce qu'il voulait et avait son tempérament, quand il était bien portant, autant en tant que malade, il était un véritable enfant. Et il faisait vraiment à la lettre ce qu'on lui demandait, dans une très grande simplicité, qui fait que tous les soins étaient faciles, parce qu'on s'approchait de quelqu'un de très simple, et c'est très beau. C'est un souvenir qui me reste très présent. Ensuite, il y a eu pour cette première maladie, donc quand ça a été les premiers jours mieux, il a été à la petite chambre, donc au premier, que tout à l'heure certains ont été visités. Et là, c'était très beau parce que au fur et à mesure qu'il allait mieux, il me disait, Sœur Thérèse, allez me chercher un tel ou allez me chercher une telle. Parce qu'il avait besoin de ce contact personnel avec les uns et les autres. Donc moi je servais un petit peu de... Et c'est à ce moment-là aussi qu'il a fait venir Robert Michler, qu'il aimait beaucoup. Je dois dire qu'il avait, une affection pour lui aussi. Et le groupe Sainte-Thérèse. Donc là, les unes et les autres sont allées, je crois, très émues, parce que le père était quand même encore malade. Et il les a pris les unes après les autres dans son bureau. Donc après, il y a eu donc le deuxième temps de maladie. Alors là, je dirais beaucoup de choses. Sur le plan chronologique, beaucoup de choses m'échappent. Je ne me souviens plus exactement où, dans sa chambre à Haguenau. Vous voyez, il y a vraiment. Mais il y a un fait qui est resté pour moi très important. Je dirais même c'est le plus important de tout ce que j'ai retenu des années du père à Bitche. Et qui m'est resté vraiment très, très, très clair dans ma mémoire et dans mon cœur. ça a été une véritable grâce. Il était dans la petite chambre, donc, au premier, et le père avait besoin de soins très particuliers, intimes, douloureux. J'étais son infirmière. Le père n'avait plus la force ni de se laver, ni de... Il pouvait encore manger, mais difficilement. Et tous les jours, je lui faisais sa toilette et je lui donnais ses soins. Je peux vous dire que je reste vraiment bouleversée de la manière dont le père était enfant. Je dirais, c'était comme si le tout était enveloppé d'un certain mystère. Lui parlait peu, moi aussi, parce qu'on ne sentait pas le besoin de parler. Il y avait une communion qui se vivait à une autre profondeur. Et un jour, le père, d'une voix plus forte, dit, pendant que je faisais les soins, « Papa, j'ai été un petit peu surprise, papa. » Sur le moment, j'ai pas réalisé. Et au fur et à mesure des années, avec la grâce, et moi-même entrant un petit peu plus dans le mystère de la paternité de Dieu, j'ai compris ce qu'à ce moment-là, cela voulait dire pour le Père. Je dirais, j'ai compris un tout petit peu, parce qu'il s'agit de mystère entre une personne et Dieu. Et je dirais, on ne peut s'approcher que sur la pointe des pieds. Mais pour moi, ça a été le moment, je dirais, le plus fort que j'ai pu vivre avec le Père. Et je crois que s'il y a une grâce à demander au Père, c'est vraiment celle-là, d'avoir ce sens de la paternité de Dieu. Parce que le Père, vous pourrez voir même, quand on reprend le livre écrit par... ou quand vous-même, vous repensez les anciens à ce que le Père disait dans des récollections, le Père n'avait pas peur de dire ce mot de « papa » et « maman » quand il parlait de la Sainte Vierge. Il était très familier. Mais cette familiarité, si vous voulez, c'est étonnant, vous faisait approcher vraiment d'un mystère qui dépassait. Et quand vous allez dans la petite chambre, donc au premier... N'hésitez pas, dans cette petite chambre-là où ce petit événement s'est passé, de demander la grâce de la paternité de Dieu. C'est une très belle, très grande grâce, mais je crois que ça fait partie, parmi tout ce qu'on peut dire, parce que le Père était tellement riche. Vous voyez, ça c'est quoi? C'est un millième de toute la pensée et de toute la vie du Père. Mais parmi le tout, il y a cette grâce-là, a demandé dans la chambre au premier. Je crois que ça vaut la peine. Voilà. Et si vous voulez bien, je vais terminer par des paroles du Père qui nous a dites à nous, communauté, un jour à la fin d'une récollection. C'était en guise de prière. Demandons à la très sainte Vierge Marie, là est l'état passable, demandons-lui l'humilité si nous voulons être parmi ses enfants vrais, parmi ses plus intimes, parmi ses plus petits, eh bien demandons-lui l'humilité. C'est impossible que la très sainte Vierge Marie, elle, l'Immaculée, ne puisse pas avec amour et joie se pencher vers nous et faire que nous arrivions à lui ressembler dans ce qu'il y a de fondamental chez elle, cette humilité, l'humble servante du Seigneur. Et alors, nous pourrons la réjouir, avec son aide, devenir des passionnés de Jésus. Tu es tout à moi, je suis tout à toi. Si vous voulez bien, nous terminons par un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint-Joseph,
priez pour nous.
Père Marie-Joseph,
intercédez pour nous.